La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Deux ans après l'élection d'Emmanuel Macron demeure encore une énigme pour celles et ceux qui devraient pourtant être les mieux à même de la comprendre, sinon de l'expliquer, les politistes, les sociologues de la politique. Cette élection improbable est en effet venue contredire nombre d'enseignements patiemment accumulés au fil de recherches diverses sur les partis politiques, le clivage droite-gauche, l'élection présidentielle sous la Ve République ou encore la professionnalisation politique. Si le mystère demeure, il s'estompe néanmoins à mesure que de nouveaux travaux, de nouvelles enquêtes se font jour, d'autant plus passionnant qu'au-delà du cas particulier, ils permettent de tester à nouveau frais certaines des hypothèses et même parfois jusque-là des résultats les plus établis des sciences sociales du politique. Issu d'une journée d'études organisée au début de l'année 2018, un ouvrage collectif consacré à l'entreprise Macron paraît, qui regroupe un grand nombre de chercheuses et de chercheurs ayant rapidement pris pour objet cet objet politique non identifié. L'un des directeurs de l'ouvrage est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées, Julien Fretel. En seconde partie d'émission, c'est le romancier Quentin Lafay, acteur et témoin des débuts de l'entreprise Macron, qui nous rejoindra pour évoquer avec Julien Fretel un certain nombre d'hypothèses qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé cette année 2017 et depuis avec ce nouveau moment politique qu'on peine encore à véritablement cerner. Bonjour Julien Fretel.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 et vous êtes l'un des trois directeurs de cet ouvrage collectif aux côtés de Bernard Dolez et de Rémi Lefebvre. J'ai pas compté, mais enfin une quinzaine, une vingtaine de chercheurs ont été mobilisés très, très rapidement parce que ce colloque, je l'ai dit, il s'est tenu en début de l'année 2018. Je crois que vous aviez lancé un appel à communication très peu de temps avant. C'est rare de voir la science sociale se mobiliser à chaud, mais sans doute faut-il le comprendre comme une sorte de défi qui avait été lancé par l'actualité aux sciences sociales, puisque, comme je le rappelais en introduction de l'émission, cette élection est apparue pendant la campagne, et puis évidemment, a fortiori à l'issue du résultat, comme quelque chose d'étonnant, pour le moins de surprenant, tant les spécialistes n'arrivaient pas à y croire tout du long, Julien Fretel.
Oui, alors merci pour votre invitation. C'est vrai que c'était un sacré défi de se mobiliser pour essayer d'étudier sociologiquement ce phénomène Macron ou cette entreprise Macron. Je pense que si on a tenté d'aller vite, c'était pas seulement parce qu'on était pris d'une certaine façon par le macronisme qui est toujours fulgurant, mais c'est parce que on se rendait compte qu'on s'était planté en fait plusieurs mois, au moins un an avant l'élection. C'est-à-dire que quand on se croisait à des colloques qui n'étaient pas consacrés à Emmanuel Macron, quand on discutait dans les couloirs, on avait un certain sourire à voir petit à petit ce possible candidat tentait d'être en lice à l'élection présidentielle.
C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde pensait que ça finirait par éclater, cette bulle.
Voilà, entre nous, donc on était dans ce jargon, ça allait faire pchit. Et je pense que implicitement, ce qu'on mobilisait, alors sans faire de travail de recherche, c'est là où faut faire attention. C'est-à-dire que dans les couloirs, on n'est pas chercheurs, en fait. On est des commentateurs ordinaires.
Ouais, enfin, pas tout à fait ordinaires, parce que quand même, ces réflexions, elles reposaient sur des connaissances... Voilà. Ancienne. Ouais. Et la difficulté, c'était de projeter ces connaissances anciennes sur cette situation nouvelle.
Voilà, effectivement. Alors donc, en parlant entre nous, on n'y croyait pas, mais implicitement, on mobilisait ce qu'on croyait savoir sociologiquement. Je donne un exemple. Il nous semblait que une entreprise politique, un parti politique naissant comme En Marche à partir du printemps 2016, n'avait aucune chance, finalement, de produire suffisamment de capital politique pour permettre à un candidat d'aller au second tour d'une élection présidentielle. Ce qui signifie qu'on a engagé implicitement une définition de ce qu'est un vrai parti politique. Alors pour nous, un vrai parti politique, c'était un parti au moins un peu étoffé par des militants relativement aguerris et formés, formé, un parti enraciné dans des territoires, dans des institutions. Bon, là, on avait affaire à quelque chose de from scratch, comme c'était dit par les initiateurs d'En Marche. Et donc, ça nous semblait presque incroyable, presque, comment dire, dérisoire que de les voir partir à l'aventure comme ça. Surtout qu'ils expliquaient qu'ils n'étaient pas un vrai parti politique. Alors ça, on connaissait ça par cœur, hein, ceux qui sont dans le déni de la dimension partisane de leur entreprise, que l'adhésion se ferait gratuitement par un clic, etc. Alors, on avait l'impression que tous ces signes de la modernité allaient être complètement contredits par la réalité du champ partisan et la réalité de la compétition interpartisane.
Il y avait deux séries d'éléments, au moins, enfin plus que ça sans doute, mais certains ayant trait à l'organisation nécessaire pour remporter une élection présidentielle. On sait que c'est une élection coûteuse en termes d'argent, mais aussi en termes de temps humain passé, par exemple. Donc, et puis il y a ce qui relève de la personne aussi d'Emmanuel Macron, parce que quand on regarde qui est devenu président de la République sous la Ve République, on s'aperçoit que les vainqueurs remplissent un certain nombre de conditions, qui sont des gens qui ont au préalable un parcours. Certes, il y a des différences entre les uns et les autres, mais il y a quand même un certain nombre de points communs. En tous les cas, l'un des points communs, c'est déjà souvent l'ancienneté. Hein, beaucoup de présidents de la République, avant de devenir président de la République, ont essayé plein de fois de devenir président de la République. Et ils ont fini à l'usure ou à l'ancienneté par le devenir. On pense à François Mitterrand, on pense à Jacques Chirac en particulier. Et là, on a quelqu'un qui ne coche pas du tout les cases habituelles.
Alors, il cochait une case qu'on connaît, c'est qu'il a été énarque. Voilà, et qu'il est dans la botte, qu'il a participé à des commissions Attali, voilà, que c'est quelqu'un qui, petit à petit, a pris une place importante dans l'organisation du pouvoir. Mais il nous semblait qu'un énarque ne pouvait devenir éligible qu'après plusieurs tentatives, qu'après une insertion réelle avec constitution de courant dans un parti politique, qu'éventuellement un énarque se doit d'avoir un mandat local. Voilà. Donc on l'imagine. N'est pas à 37 ans, 36 ans, quand on l'a vu partir, on n'imaginait pas qu'il puisse avoir suffisamment de propriétés. Il avait des propriétés rares, nécessaires pour aujourd'hui occuper la fonction présidentielle, mais on pensait qu'il lui manquait beaucoup de choses pour aller plus loin. Et en plus, on se méfiait de cette médiatisation parce que les politistes, comme les sociologues, savent depuis très longtemps que d'une certaine façon, la médiatisation et la campagne médiatique ne fait pas l'élection. Voilà. Mais effectivement, on a été complètement surpris par cette rapidité et par vous parliez de la question de l'argent. Alors, on n'a pas suffisamment de travaux, de plus en plus heureusement, mais on sait qu'il y a un sens électoral important, qu'il faut des ressources. Et je pense qu'au moment où il se lance, on sait qu'il rencontre des chefs d'entreprise, il est allé à Bercy, etc. Mais on imagine que le patronat ne va pas le suivre et qu'il va avoir beaucoup de difficultés pour trouver les fonds nécessaires.
Alors vous parliez des médias, peut-être on peut s'arrêter là-dessus. Il y a un texte dans le volume collectif de Pierre Leroux et Philippe Ruyutor sur les médias, les sondages. L'une des remarques souvent faites à propos d'Emmanuel Macron, c'était qu'il était le candidat des médias. Et ce que beaucoup de gens sous-entendent par là, c'est que les médias auraient choisi Emmanuel Macron pour des raisons idéologiques, parce que c'est le candidat des médias, voire des propriétaires des médias, et que il voulait le voir élu président. Or, ce que montre très bien Leroux et Ruyutor dans leur article, c'est que, oui, d'une certaine façon, c'est le candidat des médias, mais pas pour les raisons qu'on vient de dire. Plutôt, c'est le candidat des médias parce que cette histoire qu'il propose et qu'il initie est une histoire intéressante dans la logique spécifique et économique des médias. C'est-à-dire que c'est un candidat, et de ce point de vue, on peut penser à ce qui s'était passé avec Ségolène Royal, qui ressortissait un petit peu de la même logique. Ce sont des candidats qui sont intéressants par les médias parce que ils vont susciter de l'attention médiatique, et donc ce sont des bons clients pour les médias, et ça n'a rien à voir avec leur positionnement idéologique.
Et alors, c'est vrai que l'article passionnant de nos deux collègues montre que d'abord cette médiatisation a eu plusieurs séquences. C'est-à-dire que ce qui intéresse les médias dans le personnage d'Emmanuel Macron au début, mais c'est un grand classique. On l'a vu sur José Bové, avant que José Bové ne soit candidat à l'élection présidentielle de 2007, c'est que justement il relevait d'un prototype différent des professionnels classiques de la politique. D'une certaine façon, il appartenait plus ou moins à l'étiquette société civile, qu'il était un outsider, et les journalistes, je ne vais pas tous les homogénéiser, homogénisé, mais les journalistes aiment ces personnages-là. Mais ce qui ne signifie pas que, de facto, on va devenir un éligible de l'élection présidentielle. Donc, nos deux collègues montrent que ça s'est déplacé, cette médiatisation. Qu'il n'y a pas eu une élection au départ par les médias d'Emmanuel Macron. Il y a eu un travail médiatique qui, petit à petit, s'est déplacé vers, enfin, ils le disent, d'une personnalité publique, politique, à quelqu'un qui est regardé sérieusement par les journalistes comme un possible candidat et un candidat à l'élection présidentielle. Donc, il s'est passé un certain nombre de choses et eux insistent aussi sur le fait que Emmanuel Macron a su travailler cette ressource et cette médiatisation. Donc, il suffit pas d'être hyper médiatisé pour devenir un candidat. Il faut aussi que le candidat sache petit à petit transformer cette médiatisation comme une position qui lui permette d'aller dans la compétition politique.
Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques et de stratégies mises en œuvre par Emmanuel Macron et ceux qui ont travaillé avec lui qu'il faut analyser pour comprendre comment cette victoire improbable s'est néanmoins produite. Mais il y a aussi tout un tas de choses qui ressortissent, non pas cette fois de l'entreprise Macron, pour reprendre le titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Julien Fretel, mais qui ressortissent de la situation politique dans laquelle cette entreprise a pu être possible. Et en fait, il faut tenir le debout en permanence, ce que vous essayez de faire dans nombre de contributions, c'est-à-dire comprendre ce qui relève de la démarche de l'entreprise Macron, mais comprendre le paysage politique ou l'état de la politique professionnelle, en particulier de la France dans ces années 2016-2017, qui est le résultat d'un très long processus. Et peut-être c'est ça qui avait été en partie sous-estimé par un nombre de chercheurs.
Bien sûr. Alors c'est bien, on commet toujours des erreurs, c'est-à-dire qu'une campagne présidentielle, c'est à la fois de la structure, du relativement permanent, avec des transformations, et puis de la contingence. Et je pense que dans cette séquence, on n'a pas su voir clair entre ce qui était imprévisible, par exemple le retrait de François Hollande. Enfin, nous on regarde ça de loin, on n'a pas nos entrées à l'Élysée, donc on suit pas à pas retrait du candidat sortant, les affaires de François Fillon, la difficulté pour François Bayrou à relancer une entreprise politique. Voilà. Et plus ces deux primaires à gauche et à droite qui vont enfanter, ce que mes collègues disent, des candidats plutôt radicaux par rapport à leur propre organisation. Donc il y a cette contingence et puis il y a des transformations. Alors et c'est vraiment la conjonction de ces deux qui ont permis à Emmanuel Macron d'émerger. Et d'une certaine façon, à lui seul, il symbolise la contingence et le structurel, dans la mesure où, chez lui, il y a des caractéristiques du vieux monde. C'est l'énarque qui arrive par le haut dans l'appareil de l'État et qui va petit à petit entrer dans l'arène politique. C'est quelqu'un qui a des modes de pensée assez classiques quand on fait la sociologie de l'énarchie. Bon. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui va aller mobiliser des ressources, des outils, des postures qui n'avaient pas été emprunté jusqu'à présent. Et donc, je pense qu'il a su s'appuyer sur un certain nombre de ressources bien acquises et trouver le potentiel de la situation. Il a su se mettre dans la propension, je pense, de ces événements qui se succédaient et qui apportaient, alors pour certains candidats, beaucoup d'incertitudes et voire de la cécité. Et pour lui, c'était à chaque fois des opportunités. Sans doute qu'il n'avait pas le choix, en fait. Il n'avait pas le choix. Il partait avec moins de moyens que d'autres, d'une certaine façon. Et c'est ça qu'il a su faire.
Alors vous parliez de François Hollande, ça reste l'un des grands mystères de toute cette histoire. Le fait que François Hollande ait laissé Emmanuel Macron faire un certain nombre de choses, qu'il ait choisi de ne pas réagir. Est-ce lié au fait qu'il ne comprenait pas ce qui était en train de se passer? À quel moment l'a-t-il exactement compris? Alors même que certains de ses amis les plus proches, Jean-Pierre Jouyet, Jean-Pierre Mignard en particulier, semblaient très très impliqués autour de cette démarche. J'avoue que je ne comprends pas personnellement, je ne sais pas si on peut apporter des éléments de réponse à ça, mais en tous les cas c'est important puisque c'est aussi une élection qui se caractérise par le fait que le président sortant ne se représente pas, qui est une chose très rare sous la Ve République.
Ce qu'il y a dans les stratégies de François Hollande, difficile, hein, c'est vraiment par inférence, difficile de les mettre complètement au clair, mais ce qui est montré dans le livre, c'est que dans un premier temps, du côté de François Hollande, dans un premier temps, Emmanuel Macron, alors d'abord va permettre de contenir Manuel Valls, et puis pourrait, y compris au travers de sa petite organisation, En Marche au début, qu'on regarde comme petite, pourquoi pas participer d'une primaire, participer d'une coalition qui permettra à François Hollande de mieux capitaliser et de partir quand même à l'élection présidentielle en dépit de sa faible popularité. Alors, sans doute que les erreurs de calcul de François Hollande sont liées à son logiciel. C'est l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste qui, d'une certaine façon, comme nous, pense que sans des partis bien en place, bien structurés, sans toutes ces règles du jeu, le travail qu'on fait sur les élus locaux, en fait, on peut pas faire grand-chose aujourd'hui dans cette 5e République. Et puis, c'est, je pense, aussi ce qu'a su faire Emmanuel Macron, c'est petit à petit trouver de la différence, trouver de l'autonomie, trouver des ressources. Je pense qu'il y est allé pas à pas et il s'est sans doute lui-même rendu compte qu'il avait plus d'opportunités qu'il ne l'espérait au départ.
Et peut-être ce qu'a trop ignoré François Hollande jusqu'au dernier moment, c'est à quel point une pratique nouvelle de la 5e République s'était imposée. Je veux parler des primaires. Qui ont été déterminantes dans cette élection, aussi bien à droite qu'à gauche. On se rappelle que la gauche avait déjà pratiqué l'exercice et François Hollande était bien placé pour le savoir, mais que pour la première fois, la droite allait le faire avec un grand succès, une grande participation, en tout cas, pour porter François Fillon comme à la candidature. Mais au fond, François Hollande a probablement longtemps cru qu'il pourrait, puisqu'il était sortant, se dispenser de cet exercice pour cette fois-là. Or, la logique des primaires s'était imposée, sans doute parce que la droite la reprenait aussi, de façon très 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 forte en fait.
Effectivement, ce qui lui avait permis de gagner pour une large part l'élection présidentielle de 2012, l'a mis dans la difficulté, puisque on voyait bien qu'il se refusait à aller vers une primaire, qui était pourtant devenue une sorte d'institution nécessaire, symbolique, et sans doute utilement symbolique au Parti Socialiste. C'est vrai que la primarisation de la vie politique, de l'élection présidentielle, alors a engendré, on voit que ça, c'est une contrainte, que François Hollande n'y soit pas allé, à mon avis, a été une erreur. Mais ça a pu aussi engendrer des facteurs, alors sur lesquels Emmanuel Macron a pu surfer, dans la mesure où ce que disent certains auteurs de ce livre, c'est que et François Fillon et Benoît Hamon étaient des candidats qui n'étaient pas au centre. Idéologiquement parlant et peut-être même stratégiquement parlant de leur propre organisation. Et donc ça a envoyé, alors pour Benoît Hamon, un candidat relativement faible qui a connu très tôt des défections, des exits, et puis pour François Fillon, indépendamment des affaires, ça l'a peut-être mis un peu loin du centre droit que Emmanuel Macron, pour partie, a pu occuper pendant l'élection présidentielle avec François Bayrou.
Julien Fretel, pour revenir un peu sur la situation de la professionnalisation de la politique qui a rendu possible finalement un coup comme celui d'Emmanuel Macron, sans doute faut-il s'interroger sur la défiance profonde qui s'est installée entre nombre d'électeurs et les responsables politiques, des responsables politiques de plus en plus coupés du fait de ces logiques de professionnalisation poussées à outrance. Une des manières de percevoir à quel point la politique était devenue une profession, c'est de se rendre compte que au moment où cette entreprise d'Emmanuel Macron démarre, au fond, les trois personnes, indépendamment de François Hollande, qui sont les plus importantes au Parti Socialiste et donc dans la gauche, que ce soit le Premier ministre, Manuel Valls, le candidat à l'élection présidentielle, Benoît Hamon, ou le patron du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, sont tous les trois des gens qui, au fond, n'auront dans la vie fait que de la politique. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans le modèle de François Hollande, de Michel Rocard, de Laurent Fabius, d'Alain Juppé, c'est-à-dire d'énarques qui ont fait des études longues jusqu'à l'ENA et qui ont, à un moment donné, choisi de basculer dans la politique professionnelle. On est face à des gens qui ont basculé dans la politique professionnelle au lycée ou dès les premières années d'université, sacrifiant même leurs études supérieures à cette pratique de politique professionnelle, ce qui peut-être est un indicateur de la prégnance désormais de ces carrières politiques professionnelles coupées du reste du monde.
Alors, effectivement, ces hyper professionnels de la politique, je pense, ont été mis en difficulté par la stratégie de campagne d'Emmanuel Macron, qui avait toutes les propriétés et qui les a maintenant pour être un professionnel presque pur de la politique. Il l'était déjà plus ou moins, puisque
ce qui lui manquait, c'est le temps. En fait,
voilà, c'est ça. Il avait suffisamment de temps, de ressources économiques et symboliques pour faire de la politique son activité et son métier. Mais je pense que la campagne d'Emmanuel Macron les a complètement stigmatisés comme de purs professionnels la politique, il n'avait fait rien d'autre que la politique et Emmanuel Macron, de mettre en avant son expérience dans la banque, de mettre en avant sa jeunesse, de parler de sa démission de la haute fonction publique. Et c'est vrai que ça a joué, il a beaucoup joué cette carte. Hein, quand on lit Révolution, pour lui, les partis politiques sont faits d'apparatchiks, la vie politique française est une vieille vie politique. Hein, et donc, il s'agit de la renouveler avec, dit-il, de la société civile. Et alors là aussi, c'est intéressant sur la sociologie de la professionnalisation, puisque il va permettre, si on va un peu plus loin et qu'on regarde l'élection présidentielle et les élections législatives, il va permettre un renouvellement presque sans précédent de la vie politique. Et alors, pour jouer sur les mots, avec beaucoup d'amateurs de la vie politique.
Un renouvellement aussi important au moins que celui de juin 1981, législatif qu'on suivit l'élection de François Mitterrand, où on voit arriver beaucoup de nouveaux députés. L'âge moyen des députés socialistes en 80 était de 40 ans. D'ailleurs, il sera de 20 ans plus âgé 20 ans plus tard, parce que ce sera les mêmes, mais qui étaient massivement des enseignants. Là, on a affaire à d'autres profils. Alors, il y a aussi des contributions sur cet aspect-là des choses dans le livre, Julien Fréter.
Oui, alors, d'autres profils. Alors, d'abord, ça a féminisé fortement quand on regarde le groupe LAREM à l'Assemblée nationale. Ça a rajeuni. Et puis, ça fait rentrer dans la vie politique des gens qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voyait plus depuis longtemps, c'est-à-dire des gens qui appartiennent au secteur du privé. La vie politique était quand même préemptée par beaucoup de fonctionnaires, pour aller très vite. Donc, ça a fait rentrer une vraie nouveauté, un vrai renouvellement. Et donc, pour partie, ça a chassé quand même ce vieux monde des professionnels et des purs professionnels. Alors, le temps nous dira si ces amateurs, ces profanes sont en voie de professionnalisation, mais je pense que ça a été un point très important, un indice de ce renouvellement. Néanmoins, la victoire d'Emmanuel Macron n'aurait pas pu avoir lieu, alors c'est rétrospectif, sans le ralliement de bons vieux professionnels de la politique.
Oui, il y a notamment un article sur Gérard Collomb.
Sans les besoins vitaux de ceux qui vivent de et pour la politique depuis très longtemps, notamment venant du Parti Socialiste, et qui pour s'acheter une inamovibilité vont le rejoindre. Hein, on voit qu'il y a aussi une politique du ventre. Gérard Collomb, bon vieux notable de la vie politique, quand Emmanuel Macron explique qu'il faut renouveler, qu'il faut changer le système, et effectivement des professionnels ou des jeunes professionnels de la politique venant du Parti Socialiste et qui se disent pour continuer de vivre, d'exister politiquement, eh bien on se rallie à Emmanuel Macron.
Alors il y a un article aussi d'Éric Treille sur justement le rôle du Parti Socialiste ou de certains de ses membres, de ses élus importants, qui est titré de façon très très drôle par une citation, c'est aussi notre créature, en référence à c'est aussi notre projet. Donc là on voit bien le
et qui est rejoint d'ailleurs par l'article de Rémi Lefebvre, le chapitre de Rémi Lefebvre, puisque Rémi Lefebvre travaille sur les migrations allant du Parti Socialiste à En Marche et puis la REM. Et par exemple, il n'est pas anodin que beaucoup des membres du courant de Michel Roscan aient rejoint Emmanuel Macron. Alors c'est là où peut-être qu'il ne faut pas seulement faire une sociologie des positions et des prises de position. Il faut aussi faire, on ne l'a pas fait suffisamment dans l'ouvrage, une sociologie des idéologies, des croyances et des modes de pensée. Dans la mesure où pour certains d'entre eux et d'entre elles, la migration n'a pas été particulièrement coûteuse idéologiquement. Et Rémi Lefebvre insiste aussi sur le fait que la migration n'a pas été non plus tellement coûteuse moralement. Allemand, tant au Parti Socialiste, il y avait eu déjà des crises de loyauté, par exemple. Les frondeurs ont donné l'impression au sein du Parti Socialiste qu'on pouvait se désaligner, qu'on pouvait se retirer au moins temporairement, qu'on pouvait être un opposant presque farouche au sein du Parti Socialiste. Donc certains, en allant avec Emmanuel Macron, ont même eu l'impression d'être fidèles à eux-mêmes et à leurs propres convictions.
Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a aussi des éléments de sociologie électorale. J'ai en particulier noté un article passionnant de Patrick Lehing sur le vote Macron comme un vote de classe qui s'ignore. C'est-à-dire qu'en fait, le déterminant le plus puissant du vote Macron, c'est le niveau de revenu, Julien Fréter.
Bien sûr, profession, niveau de revenu et diplôme. Alors, c'est la partie peut-être la plus qui fait avoir le plus de questions sur ce qui va se passer. Mais même si j'essaie de me retenir de lire l'avenir. Parce que quand on regarde l'électorat d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle, on a un électorat relativement aisé, un électorat qui dit bien vivre, un électorat très diplômé, et ça on le retrouve dans l'analyse sociologique des adhérents d'En Marche. Alors notre collègue Christelle Gris le montre dans une fédération du sud-ouest de la France, c'est corroboré par l'enquête Terra Nova. 40% des enquêtés de l'enquête Terra Nova ont un diplôme de grande école. C'est quand même et 80% de tête, 80% ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Bon. Donc l'article de Patrick Lehing, mais aussi ceux de Dany Laurent et de Bernard Dolez et Sylvie Strudel insistent bien sur cette dimension vote de classe qu'on n'a pas beaucoup commenté peut-être au moment de l'élection présidentielle. Les CSP+ ont principalement voté. Et quand on regarde ce que fait Patrick Lehingue, une analyse qui est attentive à ce qu'on appelle le phénomène de pénétration, c'est-à-dire quand on part des catégories socioprofessionnelles, de tête, je crois que Patrick Lehingue dit que seulement un ouvrier sur neuf a voté Emmanuel Macron au premier tour. Donc on est sur quelque chose de très massif. CSP, niveau de revenu. Patrick Lehingue en parle, hein, les communes les plus aisées, voilà, vote Emmanuel Macron, et bien sûr diplôme.
Alors il y a aussi des facteurs politiques et de positionnement politique. Ce qui est frappant, c'est que quand les enquêtés aussi à ce moment-là placent Emmanuel Macron exactement au centre de l'échiquier politique sur l'échelle classique qu'on utilise de positionnement gauche-droite. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait cette place a considérablement changé depuis l'élection et aujourd'hui Macron est placé très nettement à droite par les enquêtés.
Bien sûr. C'est là où faudrait faire un deuxième livre, parce que il y a une certaine plasticité chez Emmanuel Macron qui lui permet de pour aller vite partir de centre gauche et aller vers le centre droit sans subir des transformations personnelles, collectives et sociologiques majeures. C'est, effectivement.
Et toujours bénéficier, notamment de la part des commentateurs politiques, des journalistes, d'une étiquette de centre gauche. Au fond, on a l'impression que parfois il n'y a plus que les commentateurs politiques qui le vivent comme ça, alors que les électeurs, on l'a vu lors des européennes, ne s'y trompent pas, et que les élus locaux qui rejoignent les Républicains, par exemple, qui rejoignent en masse la République en marche, ne semblent pas s'y tromper non plus.
Et ce déplacement, alors pendant le colloque, on s'est demandé, puisqu'on commençait un colloque alors qu'Emmanuel Macron subissait une petite crise de popularité, on se demandait si ce déplacement des électeurs ou des soutiens n'allait pas être à l'origine, en fait, d'une plus forte crise de légitimité. Bon, les élections européennes ne sont pas signe de victoire pour Emmanuel Macron, mais on voit qu'il arrive à tenir, il a pu se déplacer, il tient cet électorat. Quand on regarde les cartes électorales, il y a beaucoup de ressemblances entre les cartes électorales d'Emmanuel Macron et celle de l'UDF, jadis, c'est du centre droit, voire aidé de certains chiraciens. Donc effectivement, il y a eu des transformations assez intéressantes de ce point de vue-là, des soutiens et des électeurs.
On revient sur cette aventure, sur cette improbable entreprise Macron dans la deuxième partie de l'émission, avec le regard de l'une des personnes qui a pris part à cette entreprise avant de s'en éloigner et qui dispose aujourd'hui, je pense, des outils intellectuels pour regarder de manière réflexive tout ça. C'est Quentin Lafay, il nous rejoint et après un extrait de l'album posthume, 15e album, mais posthume quelques années après sa mort, il vient de paraître, de J.J. Cale. L'album s'appelle Stay Around et le titre Lights Down Low.
Keep my lights down low. Keep my lights down low. Keep my lights down low. No trouble, you know. Keep my lights down low. Got a home down south on the river route. It's a funky dream, it's a funky scene. All the law will allow. Got a junkyard dog. It's a country style, it ain't too wild getting by, you know. In the world, ain't advertising, you know. Just doing my thing, just doing my thing, just doing my thing. Can you hear me sing? Just doing my thing. Keep my lights down low, keep my lights down low, keep my lights down low. No trouble, you know. Keep my lights down low.
La suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
L'entreprise Macron, c'est le titre d'un ouvrage collectif sous la direction de Bernard Dolez, Rémi Lefebvre et Julien Fretel. Julien Fretel qui est l'invité de la suite dans les idées aujourd'hui. Il est rejoint pour cette seconde partie de l'émission par Quentin Lafay. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier. Vous avez publié votre premier roman aux éditions Gallimard, si je ne me trompe pas, en avril 2017. Avril 2017, c'est le mois du premier tour de l'élection présidentielle. Et alors, à la fois, vous sortiez un roman chez Gallimard, et en même temps, vous étiez partie prenante de cette élection, puisque vous faisiez partie de l'équipe rapprochée du candidat Emmanuel Macron, avec lequel vous travailliez déjà depuis un moment. Vous avez donc vécu cette expérience de l'intérieur, vous l'avez vécu jusqu'à l'Élysée, jusqu'au mois de novembre de cette même année 2017, date à laquelle vous avez choisi de vous éloigner de cette expérience politique, pour vous consacrer encore et toujours à l'écriture. Mais j'imagine que vous avez porté depuis lors un regard sur les mois suivants, mais aussi un regard rétrospectif sur ce à quoi vous avez participé. Comment vous analysez, avec ce que vous venez d'entendre aussi, tout ce que les chercheurs ont pu apporter, cette séquence de quelques mois Quentin a fait ?
Alors, déjà pour commencer, je pense qu'il n'y a pas d'un côté les chercheurs qui n'auraient pas vu et Macron et son équipe qui auraient cru. Nous-mêmes, quand Macron et son équipe ont quitté Bercy en août 2016. La plupart des gens qui l'entouraient et qui l'ont accompagné dans l'aventure de la campagne, en tout cas je vais parler pour moi, on ne croyait pas à l'élection. On n'était pas parti pour aller jusqu'au bout. On savait, on était très très grisé à l'idée de se lancer dans une campagne, très grisé à l'idée de se lancer dans une aventure politique hors norme. Mais on ne savait pas où ça nous mènerait. On ne savait pas que ça nous mènerait en mai 2017 à l'Élysée. Ça, c'est le premier point, parce que il y a beaucoup, beaucoup d'impondérables dans cette élection. Et en fait, les facteurs principaux étaient quand même très, très difficiles à discerner.
Notamment Fillon, ce qui est arrivé au candidat Fillon.
Hollande qui décide de renoncer, Fillon et les affaires qu'il poursuivent. C'était, même pour nous, c'était indécelable. Donc on partait sans trop savoir au fond où on allait. Ça, c'est le premier point. D'ailleurs, au tout début de la campagne, les ressources qu'on devait mobiliser, notamment parce que moi j'étais impliqué sur le programme avec d'autres personnes, mais la difficulté à mobiliser des individus pour contribuer au programme était quand même relativement importante.
Votre rôle, c'était notamment d'aller chercher des intellectuels, des gens qui avaient des idées pour structurer un programme.
Alors, c'était d'aller chercher d'abord des experts qui étaient capables de concevoir un programme présidentiel. En septembre 2016, il y en avait quand même qui ont rejoint l'équipe, mais il y en avait peu. Et les semaines et les mois allant, il y en a eu évidemment de plus en plus, puisque l'élection même devenait de plus en plus crédible. Donc, même la capacité à mobiliser des ressources a été de plus en plus forte les semaines et les mois allant.
Alors, Julien Fretel, j'imagine que vous avez aussi, vous, pour une fois, dans cette partie de l'émission, beaucoup de questions à poser à Quentin Laffaye, parce que ce livre collectif, composé de beaucoup d'articles, repose sur des analyses de ce qui a été publié dans les journaux, des analyses de résultats électoraux, mais au fond, assez peu d'enquêtes ethnographiques, assez peu d'entretiens avec des acteurs ayant participé à l'expérience. Là, vous en avez un en face de vous.
Merci de me donner cette opportunité. Non, mais j'ai une question. Alors, en partant de ce livre, l'entreprise Macron, c'est un double sens, c'est-à-dire c'est une entreprise politique qui va au bout, au sens weberien du terme. Et puis,
oui, il n'y a rien de péjoratif dans ce concept non, de la sociologie politique. C'est-à-dire que c'est vraiment une manière de parler des partis politiques très classique depuis des années et des années en sociologie politique.
Et par ailleurs, je pense que l'entreprise, en tant qu'entité réelle de production, a, à certains égards, été un modèle, une source d'inspiration, notamment dans la manière de faire En Marche. Par exemple, on mobilise du marketing, on mobilise ce qu'on sait de l'entreprise. De manière sous-jacente, il y a des référentiels de la gestion qui semblent indiquer que pour créer une mobilisation efficace, agréable, etc., il faut plutôt aller sur le modèle de ce que certains vont appeler la citoyenneté organisationnelle. Donc, c'était un peu autour de ça que je voulais poser la question sur comment ce modèle de l'entreprise a pu être à ce point, en fait, mobilisé de l'entreprise en tant qu'exemple à suivre en politique, hein, puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises. Est-ce que ça s'est fait comme ça? Est-ce qu'il y a eu un accord? Est-ce qu'il y a eu un vrai travail de fond avec l'idée que ce qui était optimal, efficace, venait de l'entreprise obligatoirement. Il fallait l'appliquer dans l'administration, il fallait l'appliquer dans les partis politiques, il fallait l'appliquer peut-être aussi dans les manières de faire campagne.
Quant à l'affaire,
je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. D'abord, il y a l'objet entreprise qui a été énormément mobilisé dans les discours, dans les discours au sens large, dans les interventions diverses et variées du candidat. D'abord parce que c'était un objet qui potentiellement plaisait à l'électorat auquel on souhaitait s'adresser. D'ailleurs, dans l'ouvrage, Michel Auferlé fait un article sur l'entreprise et comment les patrons sont mobilisés, mais c'est pas, il le montre très bien, c'est pas quelque chose qui est nouveau. La différence, c'est que cette fois-ci, ça a marché. Pour la première fois, le discours de l'entreprise a été placé au cœur de la campagne et a permis de toucher un électorat très spécifique, vous l'avez bien dit dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire un électorat surdiplômé, urbain, actif et aussi très masculin, comme le montre l'étude de Terra Nova. Ensuite, il y a l'entreprise telle qu'elle a été mobilisée pour structurer En Marche. Et ça, en effet, au début, comme En Marche ne bénéficiait pas de financement public, il a fallu trouver les moyens de se financer avec le privé, et donc il a fallu adopter les contours d'une entreprise singulière. Mais ensuite, quand vous parlez de marketing, c'est pour ça que je pense qu'il faut relativiser ce point-là, quand vous parlez de marketing, de communication, de manière masquée, c'est un peu ce que faisait aussi l'équipe de Mélenchon. Dans sa manière de communiquer, dans sa manière de présenter le candidat, dans sa manière d'avancer même tout au long de l'élection, on peut créer une filiation assez claire entre le mode entrepreneurial et la manière avec laquelle ils ont progressé.
Là-dessus, je vous rejoins, vous avez raison. Depuis quelques années, ça se voit dans les mots, la sémantique a du sens. Depuis quelques années, beaucoup de candidats, mais depuis Nicolas Sarkozy, qui a transformé l'UMP en LR pour pas qu'on dise le parti LR, cette chasse au mot parti. On le voit dans les mots, et on le voit aussi dans le contexte génération, LFI, etc. Tout ce qui empêche d'utiliser ce mot parti qui apparemment est très péjoratif. Mmh. Et aujourd'hui, dans les débats au sein des LR, c'est les partis sont morts. Bon, donc c'est un grand classique. Donc sur les mots, effectivement, je suis d'accord.
Et là, le parti de gauche, comme En Marche, s'appelait Mouvement et non Parti. Voilà.
Et je suis d'accord sur cette dimension-là. Néanmoins, alors c'est moi en m'appuyant sur certains matériaux, Aurélien Taquet, etc., il y avait l'idée de faire d'En Marche et d'Emmanuel Macron une vraie marque. Hein, au travers ça, l'idée que on était dans une société où les grandes institutions religieuses, familiales, voilà, étaient en voie de dépilarisation et que finalement seules les marques permettaient l'identification, le repérage, mettre un peu de solidité dans cette société liquide. Donc, il m'avait semblé aussi qu'il y avait cette idéologie ou cette philosophie
ou cette stratégie
marketing ou cette stratégie, effectivement. Et qui est beaucoup plus importante. On le voit dans les structures d'En Marche, notamment dans le premier En Marche, avant que En Marche ne se transforme en LaREM. On le voit dans les structures. C'est-à-dire que tout ce qui ressemble à un parti politique est mis de côté et on a plutôt l'impression d'avoir affaire à une sorte d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne débat pas, on ne délibère pas. C'est pas si horizontal que ça. Et on utilise plein de termes, de termes de l'entreprise, aussi pour débaptiser ce qu'était un militant jadis.
Mais alors justement, je dirais que réalité, c'est une stratégie à défaut d'une idéologie. Mmh. En réalité, on crée pas une idéologie partidaire en 7 mois. Donc les ressources qu'on pouvait mobiliser de manière rapide, efficace, c'était une figure. Et d'ailleurs, quand on regarde tous les sondages, que ce soit ceux réalisés par le CVPOF, Ipsos l'étude Terra Nova, ce que vous montrez très bien, c'est que c'est une entreprise très personnelle, très personnalisée. La figure d'Emmanuel Macron n'est jamais critiquée, elle est soutenue de manière massive par les candidats, et on se demande même si la structure En Marche peut survivre à Emmanuel Macron. Et donc, ce qu'on avait sous la main, c'était lui, c'était son charisme, son parcours, son envie de faire, ses discours. Et en revanche, on avait beaucoup moins d'idées et beaucoup moins de structures idéologiques. Et donc, ce qu'on a réussi à mobiliser rapidement, c'était ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire lui, en réalité.
Alors moi, je me demande une chose, puisque je le rappelais, vous avez publié en même temps un roman, vous avez donc un rapport à l'écriture de création, d'imagination, de fiction. On sait aussi le rôle de ce qu'on appelle le storytelling dans la politique. Est-ce que ça a pu jouer un rôle? Est-ce que vous avez mobilisé votre savoir-faire en matière d'histoire dans cette séquence, dans ce moment? Est-ce que vous, au fil des jours, vous scénarisiez au fond ce qui était en train de se passer, ou alors c'est une dimension qui n'était pas pensé de façon consciente?
Non, c'était absolument pas pensé. D'ailleurs, je distingue très largement
mes
activités de création et mes activités anciennes en politique. J'ai même réalisé le scénario qu'on avait tous participé à concevoir et à écrire une fois l'élection terminée. C'est notamment un reportage diffusé sur TF1 qui retraçait l'histoire de la campagne, son storytelling et l'aventure hors normes qu'on avait vécu, que j'ai compris véritablement
Expose.
Le scénario dans lequel on avait joué.
Donc pas cette dimension
non.
Là.
D'ailleurs, l'écriture de discours à laquelle j'ai un peu participé est pas du tout une écriture créative. C'est une écriture très mécanique, collective, où on essaye de simplifier, donner du sens, mais c'est pas du tout on fait très peu preuve d'imagination.
Moi, je voulais revenir sur la dynamique au fond que vous pointiez, le fait qu'au début vous pensiez que ça, voilà, enfin qu'il y avait peu de chances que ça marche probablement, mais après tout ça valait le coup de ne serait-ce que pour la campagne au fond, pour le fait de vivre cette expérience. Qu'est-ce qui vous a peu à peu laissé penser que les choses prenaient? Est-ce qu'il y a vous avez évoqué des éléments factuels comme le fait pour François Hollande de pas se présenter, etc. Mais ou est-ce que les choses ont été tellement progressives que finalement vous n'en êtes pas rendu compte comme ça?
On s'en est pas rendu compte d'un coup. En revanche, on sentait bien au fil des semaines que justement les ressources qu'on avait vraiment du mal à mobiliser au tout début. Je parle des ressources financières, je parle des ressources humaines, je parle des ressources politiques. Dès le mois de décembre, après le discours, le fameux discours, c'est notre projet. Puis le ralliement de François Bayrou, qui a été un élément majeur aussi dans la dynamique de campagne. Au fil des semaines, on s'est rendu compte que ça prenait corps et que en fait l'élection devenait possible.
Alors, moi, j'aimerais aussi vous demander comment vous avez vécu et comment vous interprétez ce qui s'est passé juste après l'élection. On sait que c'est toujours, il y a eu beaucoup de choses écrites, par exemple, sur ce qui s'est passé après l'élection de François Mitterrand, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, la manière dont ça s'est organisé. Mais c'était des choses qui étaient préparées depuis très longtemps. L'alternance a été attendue. Beaucoup de gens avaient réfléchi à ça. Là, on est face à une équipe assez novice, face à une majorité parlementaire totalement novice, etc. Comment vous regardez ces premières semaines, ces premiers mois au pouvoir, au fond, et les changements induits dans l'organisation, dans les manières de travailler?
Les changements induits dans l'organisation, ils ont été majeurs. D'abord parce que, et moi c'est peut-être une frustration que j'ai eue ex post, c'est-à-dire que les personnes, en tout cas sur la question du programme, traditionnellement, les personnes qui s'investissent dans le programme, les experts, on les rétribue assez rapidement en leur confiant des postes autour de ministres dans les cabinets ministériels. Là, ça a été très très peu le cas. En réalité, les équipes, en particulier les équipes économiques qui ont œuvré sur la conception du programme, les personnes qui ont œuvré sur la conception du programme aussi dans le champ régalien, ont été très très peu récompensées.
On l'a entendu lors du grand débat à l'Élysée avec les intellectuels, Emmanuel Macron, on a entendu des économistes un peu amers.
Exactement, même de manière très concrète, en réalité, quand on regarde un peu qui compose aujourd'hui les cabinets ministériels, en tout cas les deux cabinets de Bercy et le cabinet de Matignon, c'est principalement des gens qui avaient participé aux campagnes de Juppé pendant la primaire et de François Fillon pendant le...
Logique au vu du nom des titulaires de ces...
Logique au vu des choix politiques qui ont été faits et des postes qui ont été confiés. Mais assez frustrant pour les personnes qui avaient contribué à la campagne.
Et du coup, ça, selon vous, contribue à affaiblir en partie cette organisation, ou ça participe de ce déplacement, de cette dynamique de la gauche vers la droite dont on parlait tout à l'heure à propos de l'électorat? Mais
il faudrait évidemment affiner le travail d'un point de vue sociographique, mais je pense que c'est on a peut-être assisté en réalité à une espèce d'alternance invisible sans qu'on le réalise.
Voilà une hypothèse, et il y en a de nombreux autres à poser encore pour des enquêtes qui vont pas manquer de se produire, j'imagine, Julien Fretel, dans la science politique française, dans la sociologie politique. En tout cas, déjà un ensemble de résultats avec ce volume collectif dont nous avons parlé aujourd'hui, l'entreprise Macron, sous votre direction, Julien Fretel, avec vos collègues Bernard Dolez et Rémi Lefebvre. C'est un livre qui paraît aux presses universitaires de Grenoble. On trouve la référence sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture. Merci Julien Fretel, merci Quentin Laffey. Une page sur laquelle vous trouvez aussi le moyen de réécouter cette émission et puis de vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Shushan Djergaillan, à la technique aujourd'hui Philippe Mercher, à la réalisation Lise Combe. C'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.